Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
La semaine dernière, nous vous avons donné toutes les recommandations pour bien préparer votre prochain voyage pour un éventuel retour au pays avec votre famille. Alors ce matin, avec l'un de nos invités, notamment le docteur Nicolas Vignier, mais aussi le docteur Muntagadia qui va intervenir avec nous au téléphone en direct du Sénégal, nous revenons spécifiquement sur le paludisme pour faire le point sur les avancées des traitements, mais aussi sur la prévention essentielle pour diminuer le nombre de décès, notamment chez les femmes enceintes et les jeunes enfants particulièrement vulnérables. Alors nous en parlons également, je vous l'ai dit, avec notre invité qui est au téléphone à Dakar, qui nous rejoint dans un petit instant. Les cas de paludisme d'importation, c'est-à-dire les cas déclarés après un retour du pays, demeurent encore beaucoup trop fréquents en France métropolitaine, environ 5000 cas par an et parfois mortels. C'est environ 10 cas par an, principalement à cause des retards de diagnostic et donc des traitements. En effet, beaucoup d'Africains se croient protégés contre le paludisme alors qu'ils ne le sont pas. Ils rentrent au pays en famille sans prendre aucune précaution, sans prendre aucun médicament. Et ça peut être très grave. On en fait le point avec vous ce matin. Docteur Nicolas Vignier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes infectiologue à l'hôpital de Melun. Bienvenue, merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Africa numéro 1. Et au téléphone, c'est le docteur Muntagadia, enseignant en santé communautaire à l'université publique de Bambé. C'est à 100 km de Dakar. Il collabore avec Enda Thiermont depuis plus de 15 ans sur la prévention du paludisme. Merci également, docteur Muntagadia, de vous être rendu disponible. Alors, des scientifiques de par le monde poursuivent leurs travaux de recherche en vue d'un vaccin antipaludique sûr et efficace. Des progrès récents dans ce domaine permettent peut-être, en tout cas vous allez peut-être nous le confirmer, d'envisager avec optimisme la possibilité de mise au point d'un vaccin. Alors, où en est-on ? Je pense qu'on va commencer avec ça, docteur Nicolas Vignier.
Alors, bon, sur le vaccin, en effet, ça avance, mais les nouvelles ne sont pas forcément aussi positives que ça, parce que ça fait des années, en effet, qu'on essaie de développer un vaccin pour prévenir le paludisme. Et en fait, c'est très compliqué techniquement, et le seul vaccin qui a été évalué de manière un petit peu avancée chez l'homme a une protection qui est très basse, hein, parce que d'habitude, les vaccins qu'on utilise protègent plus de 95% des personnes qu'on vaccine, oui. Alors que dans le paludisme, on est plutôt autour de 30% de protection, ce qui est vraiment très bas. Cependant, vu que le paludisme, c'est quand même un lourd fardeau en Afrique, avec une mortalité élevée, notamment chez l'enfant, que vous avez rappelé tout à l'heure, l'OMS envisage quand même d'utiliser ces candidats vaccins dans les pays où il y a le plus de décès, mais en complément des autres mesures de lutte contre le paludisme, qui sont, elles, beaucoup plus efficaces, à savoir l'utilisation de moustiquaires imprégnés dans les domiciles,
oui.
le traitement antipaludique intermittent pour les femmes enceintes et pour les enfants dans la zone sahélienne, et puis bien sûr l'accès aux soins, c'est-à-dire un diagnostic précoce et un traitement précoce en cas de fièvre due à un paludisme en Afrique.
Alors, docteur Muntagadia, nous allons parler à présent du cas de l'Afrique, faire un petit état des lieux. Où en est-on aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que depuis les années 2000, il y a eu beaucoup d'avancées puisque la mortalité liée au paludisme a chuté de 60%. Qu'en est-il aujourd'hui en 2018, docteur Muntagadia ?
Oui, merci. Je salue le confrère docteur Nicolas.
Bonjour.
Effectivement, nous avons eu des avancées significatives, très positives, depuis le début des années 2000. À cette époque, évidemment, le paludisme constituait une grande cause de morbidité et de mortalité dans notre pays, à l'instar de pas mal d'autres pays africains. Juste depuis lors, des stratégies ont été développées, notamment des interventions à base communautaire,
oui.
Et qui autour du programme national de lutte contre le paludisme, ont pu fédérer et les énergies de toutes les organisations de la société civile. Et donc, les interventions à base communautaire ont porté leurs fruits en termes de réduction drastique de la morbidité, mais oui. Aussi de la mortalité du paludisme. Mais le paludisme reste quand même un sujet de préoccupation, compte tenu donc de son potentiel de gravité, notamment chez les enfants et les femmes enceintes.
Alors, les chiffres sont là. 90% des décès liés au paludisme frappent l'Afrique subsaharienne. Ça veut dire que l'Afrique est vraiment la plus vulnérable, docteur Muntagadia.
Oui, c'est bien ça. Les conditions écologiques, les changements climatiques et tout ça contribuent au maintien donc de cette situation de morbidité ambiante, mais également le déficit d'infrastructures et aussi fait que les populations qui sont situées dans des zones reculées continuent toujours également de payer un lourd tribut à cette pathologie-là. Ce qui fait qu'au Sénégal, dans les zones les plus reculées et les plus pluvieuses, il y a des stratégies spécifiques qui sont mises en œuvre. En plus maintenant des interventions à base communautaire, il y a des stratégies
Oui.
ponctuelles qu'on a, par exemple, la chimioprévention saisonnière qui est mise en œuvre au sud du Sénégal et qui permet de donner des médicaments 3 fois durant la période pluvieuse chez les enfants et pour réduire les risques d'attraper le paludisme et surtout le risque d'en décéder.
Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à cette question, mais pourquoi les pays ne sont pas tous égaux face au paludisme et à la lutte contre le paludisme, docteur Mondaga?
Bon, ça dépend des stratégies qui sont mises en œuvre. Évidemment, il y a des efforts d'harmonisation de l'OMS, mais également des partenaires financiers comme le Fonds mondial. Il y a une sorte de mise à l'échelle des interventions à efficacité prouvée, et donc en fonction du faciès du pays, mais également de l'organisation du système de santé.
Oui.
Et les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais quand même, globalement, tous les pays pratiquement ont fait des progrès dans la lutte contre le paludisme.
Et est-ce que l'Afrique participe également à la recherche?
Oui, effectivement, à travers les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, les différentes interventions qui sont mises en œuvre incluent la recherche opérationnelle. Les universités sont impliquées, l'Université de Dakar, notamment le laboratoire de parasitologie, est très impliqué
Oui.
dans tout ce qui est recherche opérationnelle, que ce soit le suivi de l'efficacité des médicaments, et bien sûr bien d'autres domaines également de la recherche. On note vraiment des avancées et un compagnonnage étroit entre donc les chercheurs et les prestataires de services.
Alors, docteur Nicolas Vignier, en France, ce sont principalement des cas de paludisme d'importation, hein, environ 5 000 cas par an et parfois mortels, c'est environ 10 cas par an, principalement dû au retard de diagnostic et au traitement. Donc, alors, c'est la raison pour laquelle il est important d'insister sur cette problématique ce matin sur l'antenne d'Africa numéro 1, puisque nos auditeurs sont nombreux à faire des allers-retours et retourner régulièrement au pays.
Oui, tout à fait. Donc, en effet, quand on dit paludisme d'importation, ça veut dire qu'en effet, le paludisme n'existe pas en France, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attraper le paludisme sur le territoire français. Par contre, on peut évidemment l'attraper à l'occasion d'un voyage en zone d'endémie. Et on l'a dit, l'Afrique subsaharienne est une zone très concernée. Et il y a des moyens de prévention qui existent pour se protéger lorsqu'on voyage en zone d'endémie, à savoir le fait de prendre un traitement préventif, c'est ce qu'on appelle la chimioprophylaxie antipalustre, qui est souvent sous forme de comprimés à prendre une fois tous les jours pendant tout le séjour et encore une semaine après le retour, mais aussi le fait de dormir sous la moustiquaire la nuit et d'utiliser des répulsifs anti-moustiques pour les zones découvertes du corps. Le problème qu'on a, c'est que beaucoup de personnes qui voyagent n'appliquent pas ces mesures de prévention, et en particulier les personnes qui sont nées, qui ont grandi en Afrique et qui vivent maintenant en France, qui retournent régulièrement au pays pour voir la famille, les amis, pensent parfois être moins à même d'attraper le paludisme que des touristes qui viendraient d'autres pays ou qui seraient nés en France, parce qu'ils ont grandi là-bas et ils pensent avoir une certaine forme de protection.
Alors que...
Alors que cette croyance est fausse, hein, donc ça on le sait, et c'est d'autant plus faux que ça fait longtemps que les personnes ont quitté le territoire africain, et donc en gros on est un peu tous à égalité quand on retourne en Afrique, qu'on soit né ou pas en Afrique, et donc comme les mesures de précaution sont moins souvent appliquées par ces derniers, c'est plus souvent eux qui font des paludismes. Et donc quand on regarde parmi les 5 000 cas qu'il y a tous les ans en France, en fait, quand on regarde où sont nées les personnes, on se rend compte que 70% des personnes qui ont fait ces paludismes, ces
Oui.
5 000 cas de paludisme, étaient nées en Afrique subsaharienne. Donc c'est la grande majorité des cas. Donc il faut absolument véhiculer ce message de prévention de manière forte.
Vous voulez rajouter quelque chose, docteur Mountagadia?
Oui, tout à fait, tout à fait. Il s'agit pour ces personnes-là qui ont quitté les zones impaludées pendant plus de 2 ans, à la longue, ils perdent leur prémunition, c'est-à-dire une sorte d'immunité qui n'est pas très solide, qui se perd au fil du temps. Et donc, effectivement, on doit beaucoup, beaucoup communiquer avec ces personnes au retour au pays pour qu'ils utilisent les mesures préventives locales, notamment la moustiquaire.
Alors, docteur Nicolas Vignier, qu'en est-il de l'artémisia, cette plante utilisée en pharmacopée en Chine depuis des millénaires? On en avait parlé il y a 2 ans avec le prix Nobel de médecine qui avait été remis au docteur Yu Yu, qui avait démontré l'efficacité sur le paludisme de cette plante, plus précisément l'artémisia annua. Où en est-on?
Alors, donc déjà, il faut rappeler que ce que dans la tête de beaucoup de personnes, c'est des anciens médicaments qui circulent encore. Donc pendant longtemps, on a traité le paludisme en Afrique avec la chloroquine et la quinine. Donc faut savoir que ça maintenant c'est dépassé en grande partie parce que le paludisme est devenu résistant à la chloroquine.
Et donc il a fallu. À quoi c'est dû ces formes de la résistance?
C'est une adaptation du parasite qui, comme les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, les parasites peuvent devenir résistants aux antiparasitaires. Voilà, la nature s'adapte contre ce qui l'attaque et détourne voilà. Et c'est vrai aussi pour d'ailleurs les répulsifs ou les moustiquaires, le moustique s'adapte aussi. Et donc ces traitements n'étant plus efficaces, il a fallu trouver autre chose et on s'est rendu compte qu'une plante qui était utilisée dans la pharmacopée chinoise, donc l'artémisia, était très efficace contre le paludisme. Donc les études ont été faites, elles ont confirmé ça. Donc on a pu développer de manière industrielle cette molécule active sous forme maintenant de traitement. Et c'est maintenant le traitement de référence du paludisme qui est recommandé par l'OMS et qui est censé être accessible partout en Afrique. Et donc il ne faut plus traiter un paludisme avec la chloroquine, il faut les traiter avec ce qu'on appelle les dérivés combinés d'artémisium, c'est-à-dire à base d'artémisium associé à un autre médicament. Il y a toujours deux médicaments ensemble.
D'accord.
Pour éviter qu'il y ait une émergence de résistance.
L'utilisation seule est déconseillée.
Voilà, l'utilisation seule est déconseillée et surtout, en fait, comme c'est une plante, beaucoup de personnes ont envie d'utiliser la plante directement ou des dérivés de la plante. Il faut faire très attention parce qu'il y a des faux messages qui circulent,
tisane,
comme quoi,
notamment.
Voilà, en tisane. Donc, il faut vraiment utiliser les médicaments tels qu'ils sont recommandés par l'OMS, qui sont donc sous forme de médicaments. Il ne faut pas croire qu'on peut se soigner soi-même avec une tisane. Et il faut aussi bien noter que l'artémisium n'est pas recommandé en prévention du paludisme. C'est d'autres médicaments qu'on utilise en prévention du paludisme. C'est vraiment pour traiter les cas de paludisme. Donc ceux qui disent vous pouvez prendre une tisane quand vous partez en Afrique, ça vous protège. Ça, il faut surtout pas faire ça parce que ça risque d'être inefficace. Donc vous risquez de faire un paludisme. Et on a dit que c'était une maladie qui pouvait être mortelle. Et puis en plus, ça risque de développer des résistances du parasite contre ce traitement, qui est le traitement, qui est notre dernier recours à ce jour pour lutter contre ce fléau.
Et quel est le point de vue du côté du continent et du côté du Sénégal, docteur Muntaga?
Tout à fait. Le Sénégal aussi a l'utilisation des dérivés d'artémisine depuis l'année 2006. Depuis 2006, nous utilisons des combinaisons, comme le confrère l'a bien expliqué. La monothérapie est proscrite. On demande d'utiliser des combinaisons pour non seulement être plus efficace, mais également assurer la longévité de cette molécule-là pour ne pas faire face très rapidement à des résistances.
On va retrouver tout de suite. Oui, oui, allez-y, terminez, docteur, pardon.
Je voulais juste ajouter aussi que, toujours dans ce souci de préserver la qualité de ces médicaments-là, le diagnostic est basé sur la biologie. Donc, les tests de diagnostic rapide et la goutte épaisse sont nécessaires pour confirmer le cas avant de donner le traitement.
On va retrouver tout de suite Phil Darwin et Prudence Maïdou.
Hey, n'oublie pas d'acheter un pulvérisateur anti-moustique pour tes vacances au pays.
Quel pulvérisateur anti-moustique? Oh, pardon, moi je n'ai pas d'argent à jeter dans ces choses-là. D'ailleurs, à partir de 6h du soir, moi-même là, je deviens un anti-moustique. J'ai l'oreille tellement radar que l'alarme se déclenche quand ils approchent.
Ah bon, hein? En tout cas, j'espère que tu as aussi des oreilles sur les orteils. Parce que quand un moustique te pique les pieds, tes oreilles ne reçoivent pas de préavis, hein.
En plus des traitements, il existe des techniques simples et efficaces pour se protéger des moustiques. l'utilisation de pulvérisateurs anti-moustiques, le port de vêtements à manches longues à la tombée du soir ou bien encore l'utilisation de la climatisation et de moustiquaires la nuit.
Nous allons rappeler tous ces points tout à l'heure. Mais avant cela, docteur Nicolas Vignier, peut-on faire un point sur les traitements préventifs disponibles en France ? Quand les prendre ? Sont-ils différents selon les zones dans lesquelles on se rend ? Quelle est la prise en charge et quels sont les coûts ? C'est vrai que pendant des années, les prix étaient assez chers, mais c'est devenu de plus accessible aujourd'hui.
Tout à fait. Donc, à ce jour, il y a trois traitements disponibles sur le marché qu'on peut prendre en prévention quand on rentre au pays. Mais on en utilise surtout deux parce que le troisième n'est pas toujours très bien toléré, ce qu'on appelle le lariam qui peut être pris une fois par semaine. Donc les deux qu'on utilise principalement, c'est la doxycycline et la tovaquone proguanil. Donc ces deux traitements qui sont sous forme de comprimés, qu'il faut commencer la veille du départ en Afrique, qu'il faut prendre ensuite tous les jours, et puis les continuer après le retour. Donc c'est là qu'il y a une petite différence. Pour la doxycycline, il faut continuer pendant 4 semaines après le retour, et pour la tovaquone proguanil, il faut continuer pendant une semaine seulement. Donc la doxycycline est un peu moins chère. La tovaquone, c'était le médicament qui était réputé cher avant parce que la boîte coûtait autour de 30 euros. Et maintenant qu'il y a le générique, on peut le trouver dans certaines pharmacies spécialisées, beaucoup moins cher. On peut trouver jusqu'à 10 euros en région parisienne. Mais il faut connaître les pharmacies qui pratiquent ces prix-là. Donc voilà. Et donc ce traitement, il peut être prescrit par tout médecin. Hein. Donc ça peut être prescrit bien sûr dans les centres spécialisés de médecine du voyage, mais aussi par votre médecin traitant ou tout médecin généraliste près de chez vous. Par contre, c'est un médicament qui n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. C'est un choix français depuis toujours de ne pas rembourser ce qui concerne le voyage. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Oui. Donc ça sera à la charge de la personne. Donc c'est vrai que souvent ça pose des problèmes parce qu'il faut payer les vaccins, il faut payer le billet d'avion, il faut payer le traitement. Là, vous parliez des pulvérisateurs anti-moustiques, c'est encore autre chose à acheter. Quand c'est des familles qui partent ou il faut acheter pour 5 personnes, ça fait des budgets très importants. Mais on l'a redit, le paludisme est une maladie potentiellement mortelle, donc c'est vraiment très important. Et il n'est pas raisonnable de partir sans cette chimioprophylaxie, même si malheureusement ça a un coût.
Alors c'est important de rappeler aussi que ce traitement préventif, c'est avant, pendant et après. Parce que souvent quand on revient de voyage, on a l'impression qu'on en est débarrassé et que on ne continue pas son traitement alors que c'est une erreur.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent au retour, alors qu'en fait, entre la piqûre du moustique et le développement de la maladie, il peut y avoir plusieurs jours qui s'écoulent. Donc, c'est pas parce qu'on est rentré qu'on est indemne de paludisme. Donc, c'est pour ça qu'on recommande que ce traitement, si on parle de la tovaquone, soit poursuivi 7 jours après le retour. C'est très important.
Docteur Muntagadia, vous voulez dire un mot, peut-être ?
Oui, tout à fait. C'est les mêmes recommandations également qui sont faites ici. Mais en plus, nous nous insistons beaucoup vraiment sur l'utilisation de la moustiquaire imprégnée.
Oui.
Voilà.
Alors, lorsque l'on revient au pays, comment on doit réagir si on a des doutes, si on a quelques symptômes, si on a de la fièvre ? Est-ce qu'on peut directement se rendre aux urgences, docteur Nicolas Vignier ?
Alors, non seulement on peut, mais on doit, hein, parce que, on l'a dit, il y a à peu près 10 personnes qui décèdent chaque année du paludisme, et ces décès sont dus à un retard de prise en charge. Donc, en fait, toute fièvre au retour d'un voyage en Afrique ou dans une zone d'endémie doit entraîner une consultation sans délai aux urgences. Et pourquoi aux urgences? Parce que c'est le seul endroit où vous pourrez avoir en urgence le diagnostic au niveau sanguin qui vérifie si vous avez ou pas le paludisme.
La goutte épaisse.
Voilà. Parce que si vous prenez rendez-vous chez le médecin traitant, souvent il vous fait attendre quelques jours. Et quand vous allez vous retrouver devant lui, il va vous prescrire la prise de sang, il va falloir retourner au laboratoire. On perd des heures et des jours et c'est là où les choses peuvent devenir sérieuses. Donc, la fièvre au retour d'Afrique, c'est vraiment une indication à se présenter aux urgences. Donc certes, les urgences sont un peu saturées, il y a pas mal d'attentes, mais il faut vraiment prendre son mal en patience parce que si c'est le paludisme, il faut avoir un traitement immédiat.
Est-ce qu'il existe des autotests pour le palu ?
Oui, il existe, mais c'est pas vraiment disponible, accessible à ce jour au grand public. Voilà. Par contre, il existe des tests de diagnostic rapide, donc un peu comme on utilise dans le VIH, qui eux sont largement utilisés en Afrique et en France, mais qui sont toujours sous la responsabilité d'un professionnel de santé, donc il faut quand même se rapprocher d'un professionnel de santé.
Alors, au téléphone, c'est un auditeur, c'est Darius. Bonjour Darius.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre. Allez-y, nous vous écoutons.
Oui, je voulais juste poser une question concernant le palu. Généralement, en Afrique, quand on a le paludisme, on va en pharmacie de façon libre et on achète soit un artémétel, une méfontrine, et on le prend sur 3 jours et on est guéri. Est-ce que pour quelqu'un qui est en France, qui va au pays, qui doit revenir, si pour un cas de paludisme, est-ce qu'en venant, on peut acheter un artimétal de ventrine, garder ce soir et que si je constate les symptômes du palud...
Les prendre. Docteur Muntagadia, vous connaissez, vous pouvez peut-être répondre à cette question.
Je pense qu'il est préférable d'adopter la stratégie de prévention que le collègue a tout à l'heure bien explicité, plutôt que d'attendre les symptômes. Comme il dit, ça peut aller très vite, surtout pour une personne qui n'est plus habituée. Et le passage directement à une forme grave peut arriver très vite pour une personne qui n'a pas de prémunition, donc qui ne vit pas en zone impaludée. Donc je ne conseille vraiment pas cette stratégie-là.
C'est la même chose que vous...
Oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'il faut aussi... donc là, l'auditeur a bien précisé que c'était pour prendre un traitement en cas de palud. Oui. Mais moi, ce que j'ai aussi constaté chez certaines des personnes que j'ai accompagnées, c'est que certains, parfois, achètent des médicaments en pharmacie en Afrique pour les utiliser comme traitement préventif. Donc, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut surtout pas utiliser les dérivés d'artémisine en préventif au risque de développer les résistances. Mais les médicaments que j'ai cités tout à l'heure, doxycycline ou atovaquone proguanil, et en effet, la prévention est préférable au traitement curatif. Mais si quelqu'un était parti, si on fait l'hypothèse que quelqu'un est parti sans traitement préventif parce qu'il a un peu négligé ça et qu'il développe une fièvre sur place, oui, en effet, avec un traitement de 3 jours, on peut guérir. Mais il est préférable d'avoir une certitude diagnostique parce qu'une fièvre peut être due à autre chose, une infection urinaire, une pneumopathie, etc. Et donc, c'est ce que disait mon collègue tout à l'heure, il faut se rapprocher d'un agent de santé communautaire ou d'un poste de santé pour réaliser le test de diagnostic rapide, éventuellement la goutte épaisse, qui confirmera ou pas le paludisme.
Alors rapidement au téléphone, c'est Ousmane. Ousmane, je vais synthétiser votre question parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors j'avais lu il y a quelques années qu'en Afrique centrale, les gens n'aiment pas dormir sous une moustiquaire car ça leur rappelle le linceul. Docteur Muntagadia, vous connaissez, vous pouvez peut-être répondre à cet auditeur.
Oui, ce type d'interprétation également a été rapporté ici au Sénégal. C'est la raison pour laquelle même on est arrivé à développer des moustiquaires d'une autre couleur, des moustiquaires bleus. Mais je crois qu'en communiquant suffisamment avec les personnes, les gens se sont habitués maintenant à l'utilisation des moustiquaires.
Merci en tout cas pour votre disponibilité, docteur Muntagadia. Merci de vous être rendu disponible ce matin et on vous dit à très bientôt.
Merci, à bientôt.
À vous, à très bientôt. Il reste une petite minute, docteur Nicolas Vigny. Alors, quelles sont les recommandations importantes à rappeler aux auditeurs avant la fin ?
Donc, les recommandations importantes, c'est qu'il ne faut pas négliger le paludisme. Si on a immigré en France et qu'on y réside depuis plus de 2 ans, on n'est plus protégé du tout contre le paludisme et donc on est particulièrement à risque à l'occasion d'un retour d'attraper cette maladie. Et donc, il est important de prendre le traitement préventif et de dormir sous la moustiquaire imprégnée pendant tout le séjour.
Et surtout si vous y rendez avec vos enfants, donc n'hésitez pas à aller d'ores et déjà chez votre médecin traitant pour en parler avec lui et prendre vos rendez-vous pour la vaccination et toutes les recommandations pour partir en bonne santé et revenir en bonne santé. Voilà, on vous souhaite donc une très bonne journée à l'écoute de nos programmes. Merci beaucoup docteur Nicolas Vigny. À très bientôt sur l'antenne d'Africa numéro 1. Il est 9h54, on va marquer la petite pause et Ambiance Africa, ça continue juste après.